Chapitre 21. Dernière volonté. Étendue sur le canapé, sa pauvre tête appuyée sur les coussins, Madame Champieu buvait à petites gorgées le café fort et brûlant qui la ranimait. Madame Dupommier, assise tout près d'elle, lui tenait sa tasse. Rosanne l'entourait de cruchons d'eau chaude et la malade souriait d'un air content, rajeuni. « Je me sens déjà mieux. Ah, qu'on est bien chez soi !» « Maintenant, racontez notre histoire, monsieur Laurent. Je n'en aurai pas la force. » Cette histoire, fit Laurent, qui gardait une mine soucieuse, elle se dit en un mot, « Ce que femme veut, Dieu le veut. » « Parfaitement, murmura madame Champieu, haletante d'avoir seulement soulevé son bras pour tenir la tasse. « Je les avais tous contre moi. » Hier soir encore, reprit Laurent, il avait été formellement décidé qu'on ne pouvait songer à partir. Madame Champieu nous cachait ses plans. Elle avait gagné à sa cause une jeune femme de chambre qui s'était persuadée, je crois, qu'on séquestrait cette pauvre dame pour lui arracher un testament contraire à sa volonté.
« C'était bien un peu cela, vous avouerez, »
fit de nouveau la malade, toute droite contre ses coussins. La jeune femme de chambre, très débrouillarde, prenait les dispositions nécessaires pour la fuite, car c'était une fuite. « La fuite de Varennes, mieux réussie !» dit Madame Champieu de sa voix au souffle court. « Ce matin, comme je me préparais à aller prendre des nouvelles, cette jeune personne vint me prévenir que je trouverais Madame Champieu à la gare, où elle me priait instamment de la rejoindre, sans en informer âme qui vive. » « Oui, j'ai fait cela, toute seule avec Jenny, et j'avais envoyé Madame Sébastien choisir des chambres à Térité. Le champ était libre. À l'hôtel, on ne demandait pas mieux que de me voir partir. Ils n'aiment pas qu'on meure chez eux, ces gens-là. Jenny avait commandé une voiture d'ambulance et retenu un coupé de première. Je suis partie sans bagage, rien que le nécessaire. » « Madame Sébastien emballera, » ajouta Madame Champieu, dont les yeux battus eurent une étincelle de malice. « Que pouvais-je faire ? » dit Laurent. « Ce que vous attendiez de moi, vous ramenez chez vous. C'est une grosse imprudence dont je suis complice. » Il ne décrivit pas les heures mortelles de ce voyage, son effroyable inquiétude à chaque pâleur, à chaque demi-défaillance de la malade, les difficultés des deux transbordements, une fois pour la changer de train, la seconde fois pour l'installer dans le landau qui, de la ville, les avait ramenés à la mal tournée. Il ne dit pas les reproches qu'il s'était adressés, ni les craintes du blâme de son père, des jugements du village, du soulèvement d'animosité, ni la vision d'un dénouement irréparable, ni sa rébellion contre les circonstances qui le faisaient, en somme, arbitre d'une succession disputée. Il a été « parfait pour moi !» dit Madame Champieu, respirant à chaque syllabe. « Voyager avec un homme qui vous aide, c'est tout autre chose que de voyager seul. Je n'aime pas à voyager seul !» fit-elle encore, comme ses paupières se fermaient de lassitude. « Nous allons la mettre au lit !» dit Madame Dupommier, qui lui passa la main sur les tempes. Mais la malade se ranima pour dire encore, d'un ton ferme, comme Laurent allait sortir.
« Rendez-moi un dernier service. Téléphonez demain à la première heure à mon notaire, Maître Marquis. Dites-lui que je l'attends. C'est urgent. Pas une minute à perdre. »
Comme Rosanne accompagnait Laurent pour l'éclairer à travers la cuisine, elle lui dit « « Pourquoi n'as-tu pas télégraphié ? Madame Champieu aurait trouvé sa chambre chaude et les choses préparées comme pour une malade. »« C'est elle-même qui me l'a défendue absolument, » répondit le jeune homme. « Impossible de discuter. Elle était à chaque minute sur le point d'avoir une crise de palpitations. La pauvre femme a une terreur folle des Sébastiens. Elle s'imaginait, je crois, qu'ils étaient capables de faire dérailler le train pour l'empêcher de rentrer à temps. » Elle les voyait à chaque gare, montant à l'abordage. Non, ce qu'elle voulait, c'était rentrer à l'insu de tout le monde. Malade comme elle est, elle a une volonté d'acier. Je lui ai obéi comme un petit garçon. Je crois vraiment que si je l'avais abandonnée à la gare de Montreux, elle serait partie seule, s'en remettant à la bonne volonté des employés du train.
« Ah non, Laurent, tu étais incapable de l'abandonner !» s'écria Rosanne, fondue de pitié et de tendresse à cette seule idée. « Mais où vas-tu descendre? Il est passé minuit. »
« Je réveillerai quelqu'un ou Guillaume Tell. On me préparera une chambre. Il est trop tard pour aller frapper à la cure. C'est mon père qui va être étonné demain matin. » Bien des personnes, outre Élie Mestru, furent étonnées et le village bruissait comme une ruche où le frelon a pénétré, car quatre nouvelles stupéfiantes avaient éclaté à la fois. Madame Champieu était rentrée mourante au coup de minuit. Au 12e coup de minuit, noté. 30 secondes plus tard, le château lui glissait entre les doigts. Son notaire était auprès d'elle. Question de testament. Laurent Mestru aurait pu dire bien des choses, mais il ne disait rien. Toujours les mêmes, chez Mestru, des cadenas. Et voici que Madame Sébastien rentrait à son tour, vers les 2 heures de l'après-midi, jaune comme un citron. Sa contrariété lui avait porté sur la bile. Elle était montée droit dans sa chambre et s'était mise au lit. Madame Liumenet avait été reçue. Comme cela, on saurait quelque chose, et des choses sûres, avec les détails. Serait-il possible que Madame Sébastien ait voulu tyranniser et martyriser sa belle-mère, là-bas à Montreux, au point que la pauvre femme s'était sauvée quasi en chemise? Et Laurent Mestru, se trouvant à point sur le quai de la gare, avait sauté dans le wagon à la dernière minute en repoussant Madame Sébastien qui le tirait en arrière par ses habits. Voilà comment les choses se sont passées sans un mot d'erreur, déclarait la boulangère chez laquelle il y avait grande réunion. Inutile d'ailleurs de s'informer au château. On ne trouverait que Madame Dupommier, plus sourde que jamais. Rosanne était avec le docteur et Louise Duplan au premier étage, soignant la malade, écartant les visiteurs. Monsieur Sébastien Champieu et Myriel avaient été y conduits tout comme les autres. Au fond, on jubilait du bon tour que cette femme, étrangère pourtant au village, jouait à ses légitimes héritiers et la maison Champieu, sur la place, était épillée comme si sa porte même, sa sonnette, ses fenêtres à rideaux crochetés eussent pris des airs déconfits. Le notaire était arrivé à 11 heures. L'entretien ne fut pas long. Aucun témoin ne fut appelé pour la signature, d'où l'on conclut que le testament était holographe ou qu'il avait été fait antérieurement. Une garde-malade de la Croix-Rouge, mandée par télégramme, débarqua vers le soir et fit sensation. Les Sébastien restaient chez eux, moroses, humiliés, furieux. Du moins, on se permettait de le supposer. M. Liumenet était désolé. Cette agitation, ces mauvaises rumeurs, cet air saturé de malveillance et toutes ces manifestations de l'homme naturel, dépourvu de grâce et de charité, comme c'était peu l'atmosphère qu'une paroisse chrétienne devrait respirer dans des circonstances aussi solennelles. On admit le pasteur auprès de la malade pour 5 minutes seulement, et tout était fort tranquille, mais bien terrestre encore, dans cette chambre, car Madame Champieu, près de son dernier souffle, se repaissait d'une pensée, d'une joie, d'une gloire. En définitive et malgré tout, elle triomphait des Sébastien. M. Liumenet se retira, triste et perplexe, et surtout très embarrassé de prendre parti. On allait le questionner, et sa crainte ordinaire, celle de manquer de tact, le hantait. Ce n'était guère que dans la compagnie d'Élie Mestru qu'il se sentait complètement heureux, rassuré et confiant. Malgré la présence de la garde, Madame Champieu voulait avoir Rosanne constamment dans sa chambre, et elle lui témoignait une affection, une sorte de reconnaissance qui, par la jeune fille, allait à leur vraie adresse, à Laurent. Les journées étaient paisibles, la malade ne souffrait guère, elle envoyait des messages à diverses personnes pour lesquelles elle avait éprouvé de l'amitié. Jamais elle ne mentionna les Sébastien. Une nuit, vers 3 heures, elle s'agita un peu, elle gémit. La garde et Rosanne accoururent. Elle les regarda avec de grands yeux vides. Elle dit « Je suis arrivée à la 11e heure. » Et ce fut tout. L'embolie avait fait son œuvre. On commenta beaucoup la dernière parole de Madame Champieux, on y chercha un sens figuré, biblique et mystique. Mais Rosanne, malgré elle, resta persuadée que la pensée ultime et suprême de la mourante avait été pour la pauvre chétive Victoire, qui couronnait une longue guerre, également misérable. Dans le grand salon où, 8 ans auparavant, la famille Champieux s'était assemblée pour écouter la lecture des dernières volontés de son chef Louis Champieux, une assistance plus nombreuse, noire, lugubre, secrètement frémissante, était aujourd'hui réunie. Les sofas et les fauteuils de tapisserie à sujet, le grand lustre enveloppé de mousseline, les hautes glaces solennelles, revêtaient de leur dignité cette cérémonie d'apparence recueillie et douloureuse. Monsieur et Madame Sébastien Champieux, avec leur fille et leur fils, écrasés sous le drap noir et sous les crêpes, occupaient de chaque côté de la cheminée les places d'honneur. Quelques vagues sécherées, embarrassées, polies et palpitantes d'anxiété, s'éparpillaient alentour de la vaste pièce. Les dames du Pommier, Élie et Laurent Mestru, convoquées spécialement par Maître Marquis, étonnées de se voir là, courbaient la tête sous une appréhension qui aurait dû être de l'espérance, car que pouvait être, sinon un legs, la surprise qui les attendait. Maître Marquis se dressa, fatidique, impénétrable, au centre du large demi-cercle. Ses cheveux blancs lui faisaient, avec sa redingote noire de drap fin, un deuil qui semblait plus complet, plus distingué que celui des gens à cheveux bruns ou rouges. Il arrangea des feuillets, il toussa. C'était tellement la même mise en scène que Madame Sébastien chercha tout à coup des yeux sa belle-mère qui, l'autre fois, était là, en face d'elle. Mais non, songea la Bru, Madame Clotilde, dépouillée du prestige des biens terrestres, comparaissait en ce moment devant son juge et lui déclarait probablement qu'avant de quitter le monde, elle avait remis en ordre et en équité la situation injuste établie par un précédent testament. Moi, Clotilde Champieux, née Sécheret, veuve et légataire de Louis Champieux, commença Maître Marquis, dont la diction était fort nette. Faible de corps mais saine d'esprit, comme en témoignera Maître Marquis, lequel m'assiste en ce moment, j'ai écrit de ma main mes volontés dernières. Je ne possède aucune fortune liquide, puisque le capital de 100 000 francs, dont la rente me permettait de vivre, fera retour aux descendants directs de mon mari défunt, suivant le testament qu'il a laissé. Seul, le château Champieux m'appartient en propre, et je puis en disposer, ayant satisfait à toutes les conditions d'où dépendait ce droit. Je lègue donc en toute propriété le château susdit, avec tout ce qu'il contient et le terrain qui l'entoure, en nature de verger, jardin et terrasse, à M. Laurent Mestru, fils de M. Élie Mestru, à Fontfraîche. Ce legs doit être considéré comme un témoignage de ma reconnaissance pour un service très éminent que M. Laurent Mestru m'a rendu. Sans son assistance, j'aurais perdu le droit dont j'use maintenant en sa faveur. J'ajouterai qu'aucune condition, ni de résidence ni de maintien, n'est attachée à ce legs. Le légataire pourra disposer à sa guise de l'immeuble et des meubles qui vont devenir sa propriété. Je suis certaine qu'il en usera avec respect et discernement. Je le laisse libre de distribuer à mes amis et à mes proches tel souvenir qu'il jugera bon, le temps dont je dispose et mon peu de force ne me permettent pas d'en faire l'énumération. Signé Clotilde Champieux, née Sécheret. La dernière syllabe tomba dans un silence si profond qu'on eût pu croire toute l'assistance morte du coup que ce testament lui assénait. Pendant 3 grandes minutes, rien ne remua. Sébastien Champieux fut le premier qui bougea un pied, tourna la tête, regarda sa femme d'abord, puis le cercle pétrifié. Ensuite, les Sécherets bruissèrent. Un chuchotement menu vola de bouche en bouche dans leur clan. Madame Sébastien se leva toute raide, prit son mari par le bras, l'entraîna vers la porte. Myriel suivit ses parents, mais avant de sortir, elle décocha à Rosanne, de ses yeux d'acier gris, un regard chargé de haine et presque de folie. L'équilibre du monde chavirait donc. Qu'est-ce que c'était que cette bascule formidable qui précipitait Myriel dans les bas-fonds, et du même élan de son tremplin projeté vers les nues Rosanne, épouse de Laurent Mestru, maîtresse du château et du coin du coin. Chancelante, désespérée, Myriel Champieux perdit tout empire sur elle-même et suivit la déroute de sa famille dans un tel abandon de débâcle que les sécherés se sentirent à moitié consolés. Ceux-ci ne tardèrent pas non plus à quitter la place et Laurent ne fit rien pour les retenir, car dans sa stupéfaction et son désarroi, qui n'était pas du triomphe, loin de là, il avait besoin de se consulter avec son père avant de faire un geste, avant de prononcer un mot. Ils restaient donc là, tous les cinq, abasourdis, mal à l'aise. Le notaire proposa de relire le testament à Madame Dupommier, qui n'avait rien compris. « C'est insensé !» dit Laurent en se tournant vers son père. « Et ce n'est pas juste !» dit Rosanne. « La famille a ses droits !» Son teint, que le saisissement avait pâli, s'animait à présent d'une vive rougeur. Madame Dupommier hochait la tête à chaque phrase que lui détaillait Maître Marquis. « Vous n'êtes pas obligé de garder le château, » dit-elle enfin. « Je ne serai pas éloigné de croire, » opina le notaire, gardien naturel des traditions, « qu'en vous laissant explicitement toute votre liberté, Madame Champieux vous indiquait une solution. Dans les termes où elle était avec son beau-fils et sa bru, il répugnait à son sens de justice, peut-être aussi à son orgueil offensé, de faire de ses héritiers. Mais rien n'empêcherait le légataire d'entrer en... composition avec la famille. » Il effaçait ces mots, épiant leur effet sur le visage de Laurent et d'Élie. « Quant à moi, j'y serai tout disposé, » dit le jeune homme avec une certaine véhémence. « Le rôle que j'ai là-dedans, j'ai l'air d'avoir capté l'héritage. Car je doute que sans mon aide, Madame Champieux, pauvre femme, eût pu rentrer chez elle avant l'expiration de la date. » « Je crois vraiment que si j'avais pu me douter de ses intentions... »« Tu as très bien agi, » dit Rosanne en lui mettant la main sur le bras. « Si tu avais agi autrement, tu ne te le pardonnerais pas, car Madame Champieux serait morte là-bas, dans l'amertume, et dépossédée, ce qui ne serait pas juste non plus. On trouvera une solution, comme Maître Marquis le dit très bien. »« Attendons, » fit Élie Mestru, moins impétueux que la jeunesse. « Attendons que l'homologation ait eu lieu. Rien ne t'empêche, Laurent, je suppose, de rejoindre ces pauvres sécherés et de leur offrir l'hospitalité chez toi, en même temps que ces souvenirs dont parle leur tante. Toutes les intentions de Madame Champieux doivent être strictement respectées. » 6 semaines plus tard, car les périodes de 42 jours ont plus que d'autres une valeur légale et sacramentelle, une entrevue s'arrangea entre Laurent Mestru, d'une part, assisté par son père, Sébastien Champieux et sa femme de l'autre, et Maître Marquis, agissant comme arbitre et modérateur. Le château sans ses meubles était évalué 50 000 francs. Laurent offrait de le céder aux Champieux pour 40 000, dont 20 000 seraient attribués aux nièces sécherées, les 20 autres à Madame Dupommier et à Rosanne. « De toute manière, l'affaire est bonne pour vous !» dit Madame Sébastien virulente. Ce mot faillit arrêter les négociations. « Parfaitement, je garde le château, nous en saurons que faire, » prononça Laurent avec un signe de tête à l'adresse de son père. « Non, non, » fit Élie avec un sourire narquois, « les Mestru logent chez eux. Mais demain, » poursuivit-il en regardant Sébastien, « nous trouverons peut-être la concession bien forte. » Sébastien s'empressa de comprendre. C'était en somme une excellente transaction qui lui était proposée. « Et les meubles, les vêtements, les bijoux de ma belle-mère, vous n'estimez pas qu'ils vous appartiennent, je suppose ?» s'écria Madame Sébastien avec un air de rapacité tellement sordide que son mari en rougit un peu. « Le château, » interposa Maître Marquis, « a été légué à Monsieur Laurent Mestru avec tout ce qu'il contient. » « C'est dégoûtant !» s'écria Madame Sébastien hors d'elle. « Ainsi, la bague d'opale de ma belle-mère, ses améthystes, son bracelet de camé, ses fourrures iront à des concierges !»« Mademoiselle Rosanne Dupommier, ma fiancée, et très prochainement ma femme, disposera de ces objets comme souvenir de la façon qui lui plaira, » répondit Laurent, un peu pâle mais très calme. « Il en sera de même du mobilier. » « Ah, ce que je m'en moque de ces 4 bâtons de mobilier !» Nous avons de quoi remeubler. L'essentiel, le château, nous reste malgré toutes les sales intrigues. Angélique, Angélique, protesta son mari. Ce que dit une dame en colère ne tire pas à conséquence, fit Élie Mestru, indulgent et railleur. Cependant, je ferai observer à Madame Champieux qu'il lui serait fort désagréable de devoir rétracter ses paroles dans le cas où notre conseiller légal jugerait nécessaire une plainte de notre part. Intimidée, Madame Sébastien serra les lèvres, puis appliqua sa main sur sa poitrine comme pour refouler un nouveau flot de bile qui cherchait à se frayer passage. Tout le village admira la solution imaginée par Élie Mestru, retouchée par Maître Marquis. Personne n'était lésé, puisque les Sébastiens entraient en possession du château, que Rosanne recevait une petite dot et Madame Dupommier une rente de 400 francs. Une rente de grand-mère, comme on disait à Fontfraîche, juste de quoi s'acheter une robe, un bonnet et de faire des gâteries aux petits-enfants quand ils viendraient. L'intention de Madame Clotilde Champieux n'avait pu être de laisser tout à fait dépourvues les deux fidèles amies qu'il avait servies loyalement, ni de négliger complètement ses deux nièces mariées, quoiqu'elle eût peu de rapport avec elles. Ne pouvant disposer d'aucun capital, Madame Veuve Champieux avait certainement prévu une transaction entre la famille et le légataire, transaction qui devait nécessairement se traduire en argent liquide et distribuable. Plus on y songeait, plus le testament de la veuve semblait empreint d'une sagesse presque miraculeuse. On y découvrait des profondeurs de prescience qui confondaient les gens les plus réfléchis. On aurait dû peut-être faire honneur d'une bonne part de cette sagesse conciliante à Élie Mestru, lequel, dès la première minute, avait entrevu le seul arrangement équitable et n'avait cessé d'y travailler, morigénant son fils qui, devant les insultes de Madame Sébastien, voulait tout rompre. « Semons une graine de paix, lui dit son père. Toi et tes enfants, vous en aurez la moisson. Tandis que, si tu sèmes la guerre, tu ne seras jamais bien à ton aise à l'égard des Champieux et tu seras obligé de les détester par la suite. Ces haines de famille, c'est une peste pour le village entier. » C'était aussi l'avis de Rosanne qui, dans le même esprit de pacification, prit à Madame Sébastien et Myriel de choisir elle-même, dans la garde-robe et les bijoux de la défunte, les souvenirs qu'elle désirait garder. Et Madame Sébastien ne mit à son choix aucun scrupule de discrétion. Certains meubles, parmi les moins luxueux, pouvaient convenir à une maison rustique, Laurent les donna à sa fiancée. Il avait stipulé avec les Champieux que leur emménagement au château serait différé jusqu'au moment du mariage de Rosanne, et celui-ci fut fixé à la date la plus rapprochée possible, tandis que l'architecte constructeur pressait les travaux de la maison neuve et qu'Élie Mestru s'accoutumait, par petits déchirements successifs, à l'idée de quitter la vieille maison. Une chambre, aussi pareille que possible à la chambre conjugale et mortuaire, par ses dimensions, sa boiserie et la disposition des fenêtres, était prévue dans le plan de la maison neuve. Les modestes meubles témoignent d'un bref bonheur, la cassette à ouvrage, les estampes, y devaient être transportées. Et si quelque retour de son apathie obstinée s'abattait encore sur le vieux paysan, il se débattait contre l'emprise funeste. Il se souvenait trop des heures atroces qu'il avait vécues pendant la maladie de Laurent, le fils unique et précieux, le fils de Laurence, que son incurie avait failli conduire à la mort. Le printemps était là, on avait besoin de sa venue. On soupirait après ses grands coups d'aile qui balaient l'air et le balancent en petites vagues qu'on sent passer autour de soi. Après ces ondées qui lavent les troncs et les branches et les font luisants, lisses, rosés de sève neuve, après ces tiédeurs capricieuses et ces frissons, ces nuages, ces rayons qui traînent sur les champs et les frôlent comme des écharpes. Chaque jour, à une heure, Rosanne attendait au bas de l'avenue Laurent qui retournait au travail. Elle le rejoignait et tous deux, remplis de pensées heureuses, que le sourire et une pression de main, dans l'insuffisance des paroles, un soupir léger, une exclamation tendre, essayaient d'exprimer, tous deux s'en allaient voir sortir de terre les murs de la future demeure, faite pour durer plus qu'eux et pour abriter leur descendance. Il leur était accordé, pendant la brièveté des fiançailles, cette plénitude de bonheur, de confiance et d'espoir qui est comme l'épanouissement d'une grande fleur magnifique, parfaite dans sa forme, dans sa couleur et dans son parfum, phase de beauté sans tache que remplacera l'effort de la vie pour fructifier et se transmettre dans l'inévitable douleur, dans la fatigue, rançon de toute joie. Et l'on eût dit vraiment qu'une détente amiable, qu'une aire de bienveillance s'étendit sur Fontfraîche. Le bonheur de Laurent et de Rosanne faisait plaisir à chacun, une bienvenue leur riait au passage. On se disait « Il a échappé belle, le pauvre garçon, voyez-vous ça, si le mal l'avait emporté ?» Tant de choses tristes arrivent, on est trop heureux quand tout s'aplanit devant les pas d'un beau jeune couple. Et les Mestrus se sont bien conduits à l'égard des Sébastiens, magnifiquement. Bref, voilà M. Élie Mestru en passe d'être président du conseil communal quand il voudra. On dit qu'il démolira la vieille maison et, sur l'emplacement, on fera un jardin pour la cure qui n'a pas assez de dégagement. Myriel Champieu, au milieu des décombres de ses projets, s'était ressaisie. Elle renonçait pas à devenir reine au village, mais il fallait chercher un autre prince consort. Le commerce et la banque denisée, degré du trône, influence déjà considérable, dont on pouvait faire une puissance. Le château héréditaire, dôme et sommet rayonnant, inaccessible aux vulgaires. François denisé comme mari, auxiliaire indispensable, quoique accessoire, telle était l'esquisse du tableau. Madame Sébastien s'occupait à bouleverser sa future résidence et, déjà, des conflits s'esquissaient entre elle et sa fille et l'on pouvait entrevoir que le rôle de premier plan auquel, toute sa vie, la mère avait aspiré, lui serait contesté dès le début par une ambition tout aussi âpre et plus intelligente que la sienne. Vivre dans 12 chambres au lieu de 6, se méfier de 2 domestiques au lieu d'une seule, voilà pour la mère. Pour la fille, épouser un homme qu'elle méprisait doucement, qui le lui rendait peut-être, qu'elle se proposait de dominer et qui lui réservait des surprises, c'était toute la félicité que ces deux dames demandaient à la vie. Le châtiment des âmes médiocres, c'est le bonheur médiocre dont elles se contentent. Il faut de la volonté et du courage pour être heureux si l'on a placé son but un peu haut. Ce royaume-là, ce sont aussi les violents qui le ravissent. Une vieille femme sourde, frêle, pauvre, avait sauvé un homme en l'arrachant à la manie progressive. Une existence emmurée dans l'obstination avait fait sauter sa cangue par un gigantesque effort. Une jeune fille et un jeune homme avaient su dire « tout ou rien » et la plénitude était venue se poser dans leurs mains comme un fruit. L'amour, la maison, un père et une mère sous leur toit, ils avaient tous ces heureux. Leur demeure blanche et modeste luisait comme une perle sur le vert sombre de la sapinière, tandis qu'en face d'eux, les vitres du château Champieu s'empourpraient au soleil couchant comme des rubis irrités et que les girouettes de cuivre jetaient des flammes. Deux séries d'existences recommençaient dans l'allégorie inconsciente d'un paysage. Dans l'allégorie inconsciente d'un paysage.